France Culture.
Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Entendez-vous l'écho. L'émission du jour a été préparée et programmée par Diane Devancet. Elle est réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Olivier Arnay. Et aujourd'hui, on s'attaque à une notion, celle de mondialisation.
Aujourd'hui, la concurrence est nécessaire. C'est l'aiguillon qui est indispensable au progrès.
Charles de Gaulle, le 14 décembre 1965.
Et notamment au progrès économique. Qu'il serait absurde pour un pays de s'enfermer, comme on le faisait autrefois, comme nous le faisions autrefois, dans des douanes et dans des barrières, et que par conséquent, pour se mettre à la page, jour après jour, année après année, il faut encore une fois la concurrence. Bref, il faut un marché étendu.
Je souhaite que l'on développe le réflexe international.
Jacques Chirac, le 3 juillet 1986.
Dans les entreprises d'abord, mais aussi dans l'ensemble de la société française. En particulier, la formation des jeunes doit renforcer leur capacité à s'adapter à une mondialisation croissante de notre environnement. Quant aux entreprises, nous nous attachons à rendre plus facile la gestion de leurs opérations commerciales avec l'étranger. Et c'est l'une des raisons de notre détermination en matière de libération des champs.
Emmanuel Macron, le 24 juillet 2018.
Ne soyons pas naïfs. La mondialisation connaît une crise aujourd'hui, une crise majeure. Et ce défi énorme requiert un effort collectif de la part d'organisations internationales, de la part d'États, d'entreprises, de la société civile, afin de trouver et de mettre en œuvre des solutions.
Un marché étendu nécessaire, un réflexe international à développer, un système qu'il s'agit de sauver. De Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, en passant par Jacques Chirac, une chose est sûre, la mondialisation ne va pas de soi, et pour peu que l'on croie en ses effets bénéfiques, elle mérite bien que l'on déploie tout un ensemble de mesures, d'efforts, pour lui permettre de fonctionner. Et si vous entendez la mélodie du Lohengrin de Richard Wagner en fond, c'est parce que cet opéra a été composé en 1850, année où se cristallise ce débat qui n'a cessé depuis. Faut-il s'ouvrir au commerce international, adopter le libre-échange comme doctrine, ou au contraire ne pas hésiter à faire usage de barrières douanières et se ranger du côté protectionniste de la force. Dès les débuts de la mondialisation, tout est question d'idéologie et chaque nation va tenter de composer entre théorie et pratique, car tout n'est pas une question de choix. Cette première mondialisation qui s'impose sous l'effet du progrès technologique ne met pas tout le monde sur un pied d'égalité et crée au contraire des espaces fortement hiérarchisés. Dans cette concurrence désormais internationale, chacun va tenter de tirer son épingle du jeu et imposer à l'échelle nationale puis mondiale ses intérêts, créant ainsi un vaste mouvement de balancier entre libre-échange et protectionnisme avec une constante. L'entrée dans la mondialisation se fait sous le signe de la régulation et de la négociation. À l'heure où le repli protectionniste des États-Unis de Donald Trump est perçu comme une menace pour toutes les économies qui en dépendent, l'histoire économique nous apprend que les puissances de ce monde sont déjà passées par là et qu'il serait sans doute temps de tirer des leçons en ce qui concerne la nature réelle de la mondialisation, bien loin d'être l'équivalent économique d'une force naturelle comme le vent ou l'eau, selon l'analyse qu'en faisait Bill Clinton. C'est donc à ce terme de première mondialisation, parce qu'il est riche de combats et donc d'enseignements, qu'Entendez-vous l'écho consacre l'heure qui vient. Et j'ai le plaisir pour cela de recevoir deux éminents spécialistes de cette histoire qui nous ramène au début du 19e siècle. Léo Charles, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, maître de conférence à l'Université de Rennes et membre du laboratoire interdisciplinaire de recherche en innovation sociétale. David Todd, bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Vous êtes historien, professeur à Sciences Po Paris et chercheur associé au Center for History and Economics à l'Université de Cambridge. Un empire de velours, l'impérialisme informel français au XIXe siècle. C'est le titre de votre ouvrage paru à La Découverte en 2022. Alors David Todd, nous allons nous pencher tout au long de cette émission sur les réalités économiques, théoriques, politiques, très diverses, que recouvre le terme de première mondialisation. Mais avant cela, une première question s'impose. D'où vient fondamentalement ce terme et qui l'emploie ?
Alors, le mot lui-même de mondialisation, il a vraiment émergé dans les années 80, il s'est imposé dans les années 90. Alors, ça peut paraître étrange ensuite de l'utiliser pour parler de périodes précédentes, mais en fait, dès qu'il a émergé, les historiens tout de suite ont dit mais attendez, il y a des choses similaires qui se sont passées avant, tout ça n'est pas si neuf, c'est ce que font souvent les historiens. Et il y a même des historiens qui sont remontés jusqu'à la période romaine pour nous parler d'une mondialisation du monde romain. Mais ce qui a été plus productif, c'est de penser une mondialisation pas comme un événement unique, mais comme un processus qui se déroule par vagues, avec des flux et des reflux. On a aussi parlé de mondialisation archaïque pour le XVIIIe siècle, qui a vu se développer le commerce longue distance, avec, on estime, pour l'Europe, une augmentation du commerce international de l'ordre de 10% par décennie. Mais il y a une accélération formidable qui a lieu à l'issue des guerres napoléoniennes, hein, surtout après 1820, où là, on a une augmentation de l'ordre de 40% par décennie. Imaginez ce que ça fait de manière composée. C'est plus rapide encore que les 30 Glorieuses. On entendait De Gaulle nous parler tout à l'heure. C'est encore plus rapide. Tellement rapide qu'on assiste à ce qui va devenir un peu une définition technique de la mondialisation, à une convergence des prix sur l'ensemble de la planète. Au XVIIIe siècle, les prix peuvent varier du double au triple. Au début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale, on a des différences de l'ordre de 10-20%. Donc on a un marché mondial qui est apparu.
Léo Charles, vous employez vous-même ce terme de première mondialisation dans le titre de votre thèse « Protection, spécialisation et croissance économique pendant la première mondialisation en France et en Suisse », une thèse soutenue en 2016. Dans quelle mesure il s'agit là, quand vous employez le terme de première mondialisation, d'un concept effectivement scientifique ou au contraire d'une notion qui est plus pratique qu'autre chose, si on peut le dire ainsi, et qui a été potentiellement accolée, apposée, on va dire, à cette période-là et évidemment a posteriori?
Alors, c'est un terme qui est effectivement apposé a posteriori. Au XIXe siècle, on n'utilise pas ce terme de première mondialisation. Je crois que la première occurrence arrive en 1904 en France. C'est effectivement dans les années 1980-1990 où il y a une cristallisation du débat autour de ce terme de mondialisation, parce que on voit une formidable accélération du processus de mondialisation dans les années 80-90, ce qui va déboucher sur ce que certains appellent l'ultra-mondialisation ou la mondialisation néolibérale. Et en fait, là, il y a la conjonction de trois éléments, il me semble. Le premier élément, c'est que les économistes plutôt libéraux, plutôt orthodoxes, ont essayé de chercher dans l'histoire des éléments pour expliquer et justifier, en fait, la mondialisation heureuse, selon le mot de, je crois que c'est Alain Minc. On va avoir une lecture de l'histoire un peu faussée pour justifier, finalement, le développement dans ces années 1990. Et parallèlement, il y a aussi tout un débat autour du terme et une cristallisation autour des anti-mondialisations ou des alter-mondialisations, comme des associations notamment comme ATTAC en France. Et la troisième chose, je crois aussi que ça vient de l'émergence d'une nouvelle discipline quasiment, qui est l'économie politique internationale, où on va s'intéresser au rôle de l'hégémonie, qui est hégémon dans ces relations économiques internationales. Et donc, en fait, la conjonction de ces trois éléments font que on a parlé de mondialisation et on a voulu faire un retour historique pour retrouver un peu les bases de cette mondialisation.
Alors, le débat est extrêmement vaste, notamment parmi les historiens, de savoir à partir de quand la mondialisation démarre véritablement. On a commencé à l'évoquer avec vous, David Todd, et effectivement, on pourrait s'en remettre aux travaux notamment de Brodel ou à ceux du géohistorien Christian Grataloup, qui parle de bouclage du monde dès, les premières découvertes des explorateurs européens entre le 15e et le 17e siècle. Vous, Léo Charles, dans votre thèse, ça apparaît dans le titre, vous avez défini des bornes chronologiques. Les bornes chronologiques, on le sait, ça vaut ce que ça vaut, si on peut le dire ainsi. Ces bornes-là, vous les fixez de 1850 à 1913. Pourquoi ce choix de démarrer en 1850 ?
Alors, ce choix, il était motivé par la littérature économique. Et d'ailleurs, dans mes travaux récents, j'ai fait un peu évoluer cette borne. Et désormais, en fait, je la fais démarrer en 1846. Alors, ça paraît pas grand-chose, 4 années, mais en gros, pour avoir une mondialisation, il faut la conjonction de 3 éléments. Il faut des progrès dans les transports, qui accélèrent finalement les transports de marchandises, notamment. Il faut un progrès dans les communications, et des politiques de dérégulation et de libéralisation. Ça arrive au tournant des années 1850 en Europe. Maintenant, à cela, récemment, je travaille plutôt autour de ces notions-là, il faut quand même que la société et les acteurs économiques prennent conscience de ce rapport à l'international et que ce rapport international devient déterminant pour mener des politiques nationales, des politiques internes. Et je crois que cette prise de conscience vient en 1846 de la Grande-Bretagne avec l'abolition des Corn Laws. Et c'est depuis 1846, en fait, que la société britannique se structure autour de ce rapport à l'extérieur et va influencer la France et les autres pays européens, les États-Unis, autour de cette notion de l'importance de l'insertion internationale des économies.
David Todd, vous souhaitiez réagir?
Je voulais, oui, merci. C'était très bien exposé. Je voulais juste peut-être ajouter une quatrième super condition, mais qui est absolument en lien avec ce qui vient d'être dit. C'est pas seulement des politiques libérales, il faut aussi, on a parlé d'hégémon, mais en fait, en pratique, il faut un empire. Il faut une puissance.
Il faut quelqu'un qui domine
et qui puisse sécuriser le commerce international, qui puisse dicter les politiques libérales aux autres. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard que chaque fois qu'on a ces vagues de mondialisation, ces formes de proto-mondialisation, tout à l'heure j'évoquais l'Empire romain, bon, c'est une phase assez impériale. La phase du 19e siècle, c'est l'époque où la Grande-Bretagne, on parlait de 1846, abolition des grandes lois céréalières, 1849, abolition des Navigation Acts. C'est le moment où la Grande-Bretagne adopte le libre-échange parce qu'elle est devenue l'empire dominant et ultra-dominant. Et en fait, on pourrait dire la même chose sur notre... Ça nous apprend quelque chose sur notre mondialisation contemporaine. Pourquoi est-ce qu'on s'est embarqué là-dedans? Parce qu'il y a, sinon un empire, au moins un hégémon américain. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a des difficultés? Peut-être parce que l'empire hégémon américain a des difficultés.
Alors je vous propose d'écouter la voix de la politologue américaine Suzanne Berger qui avait beaucoup travaillé sur cette question. En 2003, elle publiait Notre première mondialisation. On est donc tout à fait dans le thème Leçon d'un échec oublié. On va revenir sur les raisons qui lui font parler justement d'un échec et pourquoi il a été oublié. Elle s'exprimait là en 2018.
Moi je le définis comme toutes les mutations dans l'économie internationale qui tend vers un marché mondial unique pour les biens, les services, les capitaux et le travail. La mondialisation, donc, n'est pas un état du monde déjà réalisé. Nous aurions dû apprendre de la mondialisation dans la période 1870-1914 que la réversibilité est bien possible. Les grandes avancées de technologie qui ont rendu possible cette phase de mondialisation ont été le télégraphe, le téléphone, les bateaux à vapeur, le chemin de fer, le câble transatlantique. Le prix d'une obligation sur la place de Londres qui arrivait à New York avec 3 semaines de retard en 1850 arrivait, pour ainsi dire, immédiatement après la mise en œuvre du câble transatlantique en 1860. Or, l'entrée en guerre en 1914 n'a pas produit un retour aux bateaux à voile ou aux pigeons voyageurs. Les technologies les plus avancées n'ont pas disparu. Ils n'ont jamais disparu. Mais au début du mois d'août 1914, les barrières sur les frontières des États se sont relevées et elles n'ont pas descendu pendant 70 ans. En fait, les marchés des capitaux étaient encore plus intégrés dans les années 1880 que dans les années 1980. Pour un Européen de 1900, l'idée d'une fermeture des frontières était tout aussi incroyable que, disons, l'idée de la fin de la mondialisation ne serait pour un Américain moyen aujourd'hui.
David Todd, on entendait là l'importance donnée aux facteurs technologiques que vous évoquiez un tout petit peu plus tôt, cette idée que les marchandises circulent plus facilement, les capitaux aussi, c'est également souligné dans cet extrait sonore. On l'a dit, il y a d'autres conditions, autres que juste le progrès technique, qui sont notamment la paix, vous l'avez mentionné à l'instant à partir de 1815, et tout un ensemble d'autres facteurs. Alors on a avec Suzanne Berger l'idée de la fin aussi de cette borne chronologique, c'est-à-dire 1914, on va évidemment y revenir. David Todd, il y a une idée très importante sur laquelle je voulais insister avec vous. Il ne faut pas croire non plus que grâce à cette mise en communication beaucoup plus rapide, à ces transports beaucoup simplifiés aussi, tout le monde entre de concert, toutes les nations entrent de concert dans cette mondialisation. C'est une mondialisation qui est par nature, par essence, presque profondément inégalitaire. Tout le monde ne prend pas sa part du gâteau, on va dire, au même moment.
Absolument. Elle est profondément asymétrique. C'était très joli le texte de Susan Berger juste maintenant. Ça fait penser au début des conséquences économiques de la paix de John Maynard Keynes. C'est une citation souvent qu'on rencontre souvent. Quel épisode extraordinaire dans l'histoire du progrès économique de l'homme que l'époque qui prit fin en août 1914. Un habitant de Londres pouvait, en dégustant son thé du matin, commander par téléphone les produits variés de la terre entière en telle quantité qu'il lui plaisait et s'attendre à les voir bientôt livrés sur le pas de sa porte. C'est tout à fait ça. Ceci dit, est-ce que tous les habitants de la planète en 1914, ici on parle d'un bourgeois londonien au centre de la mondialisation, pour lui c'était super. Pour quelqu'un qui travaille sur une plantation de thé sur l'île Maurice, où on réduit son coût du travail pour fournir cet habitant de Londres, c'était moins bien. Donc oui, ça unifie le monde, mais ça, vous l'avez dit au début, ça le hiérarchise avec des régions dominantes qui, je vais éviter d'employer le terme exploitées, mais qui profitent au moins d'autres régions, qui bénéficient plus que d'autres.
Et puis Léo Charles, nous l'avons dit, il y a même au sein des régions dominantes une forme de hiérarchisation dans le sens où, on l'a dit, il y a cette hégémone britannique qui domine le jeu commercial, qui domine ce jeu mondial en train de se mettre en place. Ce qui interroge aussi au sein de cette première mondialisation, c'est qu'est-ce qui serait une bonne insertion en fait dans ce circuit mondial. C'est cela qui agite aussi d'un point de vue théorique, idéologique. La question se pose finalement de ce point de vue-là. On pourrait se dire que les choses sont assez simples et que ça pourrait se cristalliser entre les partisans du libre-échange et les partisans du protectionnisme. Est-ce que c'est aussi simple que ça dans la première moitié du 19e siècle ?
Alors, idéologiquement, on pourrait rapprocher des choses comme ça aussi simples, libre-échange versus protectionnisme. Mais en fait, ce qui est assez intéressant dans les politiques commerciales et ce choix d'insertion internationale des économies, c'est qu'en réalité, la politique commerciale, c'est un curseur. Et les politiques économiques ou commerciales vont bouger ce curseur vers plus ou moins de libre-échange. Mais pour rebondir sur l'extrait, en réalité, la mondialisation, cette première mondialisation, elle n'est pas naturelle dans le sens où il y aurait eu un progrès technique et les choses se sont développées comme ça. Et notamment dans le cas britannique, elle a été largement imposée, parfois par la force. On pense aux guerres de l'opium notamment, ou au blocus du port des ports japonais pour imposer des traités de libre-échange qu'on a directement qualifiés d'inégaux déjà à l'époque. Et donc, en fait, cette mondialisation, elle est construite même au-delà de l'idéologie et il y a parfois des réponses très pragmatiques. On choisit le protectionnisme ou un certain degré de protectionnisme ou de libre-échange par pragmatisme. Et d'ailleurs, la Grande-Bretagne choisit le libre-échange après une tradition autarcique, quasiment autarcique, très protectionniste. Et en fait, le libre-échange, mais on le retrouvera dans les mondialisations actuelles, le libre-échange est aussi une forme de protectionnisme pour l'hégémone. Et une fois qu'on est à la frontière technologique, qu'on a la domination technologique et technique, eh bien le libre-échange a un intérêt. Et donc, il faut l'imposer. Et le 19e siècle, on a vu que cette insertion internationale des économies s'est imposée par la coercition ou par la négociation, ce qui a créé finalement des degrés de développement différents et des degrés d'insertion internationale différentes.
Et nous allons voir tout au long de cette émission comment ces rapports de force ont effectivement joué dans ce choix. Et c'est justement de ce choix que parlait un autre grand historien de l'économie, Paul Bayrock. C'était en 1997 au micro de Pierrette Perronneau dans l'émission Le Temps qui change sur France Culture.
Je considère que la révolution industrielle est une rupture fondamentale parce qu'à partir de ce moment-là où l'Angleterre d'abord et l'Europe ensuite, ouais, fait d'énormes progrès qui sont sans commune mesure avec ce qui existait auparavant. À ce moment-là, l'ouverture implique la pénétration économique à un moment donné où les écarts de développement sont trop importants. Et c'est pour ça qu'au XIXe siècle, l'histoire a montré qu'aucun pays ne s'est développé sans mettre des barrières douanières, parce que l'avance anglaise était tellement forte que sans ces barrières douanières, il se serait produit dans ces pays-là ce qui s'est produit dans le tiers-monde, une disparition de l'artisanat au profit des importations de produits manufacturés britanniques, puis après, bien sûr, allemands ou français vis-à-vis de pays comme l'Espagne ou l'Amérique latine ou même les États-Unis, parce que un des paradoxes de l'histoire économique, puisque vous mentionnez, c'est que les États-Unis, qui sont depuis les années 1950 les champions du libre-échange, ont été le pays le plus protectionniste du monde occidental depuis leur naissance. Et en fait, la naissance des États-Unis en tant que nation est en fait une rébellion contre le libre-échange imposé par l'Angleterre. C'est pour pouvoir se développer normalement que, et d'ailleurs la théorie protectionniste de List, elle a ses origines dans Hamilton, le premier secrétaire d'État aux finances, qui était l'équivalent des ministres des Affaires économiques, et que c'est lors de son séjour aux États-Unis que List a puisé ces éléments pour sa théorie de l'industrie dans l'enfance, qu'il faut protéger jusqu'à ce qu'elle obtienne une certaine maturité.
Une parenthèse, Léo Charles, vous situez votre travail de thèse dans les pas de Paul Bayrock, historien de l'économie, je le disais, professeur à l'université de Genève avant sa mort en 1999. On lui doit de très nombreux ouvrages. Citons le premier, Le mythe de la croissance économique rapide au XIXe siècle, mais aussi Victoire et déboire, histoire économique et sociale du monde du XVIe siècle à nos jours en 1997. Pour quelles raisons avez-vous choisi cette filiation intellectuelle ?
C'est une très bonne question. Je trouve que Paul Bayrock était quelqu'un qui avait de formidables intuitions et qui arrivait à penser finalement aussi contre la pensée dominante. Et en fait, ce que j'ai trouvé assez formidable dans ses travaux, c'est que à partir d'intuitions, alors il mobilisait des statistiques, mais qui forcément étaient moins développées qu'aujourd'hui à l'époque où il écrivait. Et en fait, la littérature économique très récente, dans les années 2000-2010, vient confirmer un certain nombre d'intuitions de Paul Bayrock. Et donc, moi, je voulais travailler sur le 19e siècle, sur le protectionnisme, et la première chose qu'on ouvre, c'est un livre de Paul Bayrock. Et donc, voilà, notamment sur cette idée de pas un seul pays dans le monde ne s'est industrialisé sans utiliser des mesures protectionnistes, ce qui a débouché ensuite sur ce qu'on a appelé le paradoxe tarif-croissance, où Paul Bayrock nous dit que finalement, les pays les plus protectionnistes sont aussi ceux qui ont connu la plus forte croissance, ce qui a été plutôt validé par la littérature économique. Donc moi, l'idée dans ma thèse, c'était de se dire, on peut partir de cette hypothèse un peu décalée, qui est assez intéressante, mais maintenant, il faut comprendre les mécanismes et pourquoi finalement ça a pu marcher à cette fin du XIXe siècle.
David Todd, je vous ai vu hocher la tête ou en tout cas faire une sorte de moue lorsque vous avez entendu Paul Bayrock énoncer ce fameux paradoxe qui était celui-ci, celui du protectionnisme qui permet quelque part la croissance, pour le résumer, pour quelle raison ?
Non, j'avais souri quand il avait dit que les Américains s'étaient révoltés contre les Britanniques, contre le libre-échange britannique. À l'époque, la Grande-Bretagne était tout sauf libre-échangiste. Mais ceci dit, je suis un grand, moi aussi, sans réclamer être un autre fils de Paul Bayrock, je suis aussi venu en partie à l'histoire économique en lisant du Paul Bayrock. J'admire beaucoup son œuvre. Mais je voudrais quand même mettre un petit bémol ou élargir encore ce que disait Léo Charles tout à l'heure en disant c'est pas protectionnisme ou libre-échange, il y a un curseur qu'on déplace. J'irai encore plus loin que ça, à chaque fois j'en rajoute, pour dire qu'en fait il y a aussi plusieurs types de protectionnisme. Il y a ce protectionnisme, on dit souvent éducateur en français, ou de développement industriel, où il s'agit d'aller rattraper la puissance la plus développée, donc souvent la Grande-Bretagne au XIXe siècle, ou ça pourrait être les États-Unis ou les pays occidentaux pour les pays asiatiques au XXe siècle. Mais il y a d'autres types de protectionnisme, qu'on va dire, qui sont plus défensifs, et qui jouent pas exactement le même rôle, qui n'ont pas exactement les mêmes effets. Et pour ce qui m'intéresse, c'est le 19e siècle, mais c'est quand même utile de faire des comparaisons avec le présent. Le protectionniste trumpiste d'aujourd'hui, il peut avoir une dimension éducatrice à quelques égards, mais dans l'ensemble, il est plutôt de l'ordre de la défense. Mais c'est quelque chose qu'on a connu aussi en Europe à la fin du 19e siècle, parce qu'une grande partie de la protection douanière, elle était, par exemple, contre les importations de céréales.
Léo Charme.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Et effectivement, il faut bien mentionner la diversité des protectionnismes et ne pas s'arrêter à le libre-échange c'est bon ou mauvais, le protectionnisme c'est bon ou mauvais. Et justement, en fait, dans les travaux qui ont poursuivi cette pensée de Paul Béroc et cette hypothèse sur le tarif croissance, on montre tout à fait que ça dépend du type de protectionnisme utilisé. Les pays qui ont le mieux réussi ont plutôt utilisé un protectionnisme éducateur, ont réussi plutôt à limiter le lobbying des producteurs agricoles notamment, ou des grosses entreprises industrielles traditionnelles pour faire émerger de nouvelles industries. Au contraire, ceux qui ont été protectionnistes et qui ont le moins bien réussi ont plutôt finalement été happés par ce lobbying agricole et donc n'ont pas su moderniser finalement leur process de production et leur économie. Donc c'est effectivement très important de marquer la diversité des protectionnismes.
Quel est mon intérêt dans cette affaire? Et qui suis-je? Un officier de Sa Majesté britannique, ou si vous préférez, un agent de l'Angleterre. Et l'Angleterre ne désire que ce que vous souhaitez vous-même, la liberté du commerce et la fin des dominations espagnoles et portugaises, quelles qu'elles soient en Amérique latine. Les exploits d'un Toussaint Louverture ou d'un José Dolores peuvent toujours servir, au début, à briser une certaine situation, mais à la fin, elles deviennent dangereuses, comme à Haïti. Messieurs, comme vous voyez, je crois que dans tout ceci, nos intérêts coïncident, du moins pour l'instant. Et ils coïncident aussi avec le progrès et la civilisation. Et pour ceux qui y croient, c'est important.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliatovine.
On entendait là un extrait du film Caïmada réalisé par Gillo Pontecorvo en 1969. Léo Charles, il faut reprendre les choses par le commencement parce qu'on a élaboré un très large aperçu à la fois théorique et aussi historique de ce qui nous attend pour le reste de l'heure qui vient. On l'a compris, il faut bien distinguer différentes formes de protectionnisme, de la même façon qu'il faut distinguer différentes façons de défendre aussi le libre-échange. Sauf que ça transparaît dans vos discours à tous les deux. Il y a cette idée que puisque l'Angleterre, puisque la Grande-Bretagne domine économiquement, elle parviendrait aussi à dominer quelque part idéologiquement. Dans quelle mesure est-ce vrai, Léo Charles? Dans quelle mesure, dans la première moitié du 19e siècle, je parle là de avant 1846 donc, la Grande-Bretagne parvient à imposer avec une sorte de ferveur ou de foi aussi sa croyance dans le libre-échange? Et pourquoi défend-elle ce modèle à ce point?
Alors, je vais commencer par la fin de la question. Pourquoi elle défend ce modèle à ce point? Tout simplement parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, à partir du moment où un pays devient dominant sur le plan technologique, sur le plan des processus de production, etc., rien ne sert de produire efficacement ou de produire à bas coût si on peut pas vendre sur les marchés extérieurs. En fait, le marché interne est limité et en fait, la première révolution industrielle a amené quasiment de la production de masse, et donc il fallait écouler ces produits ailleurs. Et donc il fallait convaincre, par la coercition ou par la négociation, d'autres pays d'embrasser le libre-échange. Alors, David Todd sera beaucoup plus spécialiste que moi sur l'idéologie, mais il me semble que dans les pays européens, et notamment en France, quelque chose qui a bien marché, c'est cet exemple anglais. En fait, on a déjà à l'époque réécrit un peu l'histoire en disant, mais regardez, c'est le pays dominant aujourd'hui, c'est l'hégémone aujourd'hui parce qu'ils sont libre-échangistes. Donc, on a tout intérêt, en fait, à prendre cette voie-là parce que chaque pays était convaincu que, par le libre-échange, ils allaient réduire finalement les tensions inhérentes au capitalisme. On voit que le capitalisme se développe, l'industrialisation se développe, et donc socialement ça pose des soucis. Et donc le discours libre-échangiste se nourrit un peu de ça en disant, mais regardez, en Angleterre ça a plutôt bien marché, ils sont les premiers du monde, et en plus, voilà, en ayant des produits agricoles moins chers grâce au libre-échange, on va pouvoir diminuer la contestation sociale, on va pouvoir payer des salaires peut-être un peu moins chers et développer nous-mêmes l'industrie.
David Todd, c'est exact, la pensée libérale anglaise fait des émules en France tout au long de la première moitié du XIXe siècle. On pourrait penser qu'il y aurait une forme de défiance aussi, de se dire bon, ils mettent en place ce modèle-là, on n'est pas nécessairement contraint de suivre les pas de l'ennemi historique anglais. Est-ce que pour autant cette idéologie-là infuse?
Elle fait des émules, mais dans des pays comme la France, les émules sont peu nombreux. Ça reste très minoritaire. Et comme l'a bien dit Louis Charles, ce qui compte plus que les idées, c'est l'exemple. C'est voir la Grande-Bretagne adopter le libre-échange. Ça interroge notamment les dirigeants économiques et politiques. Ils se disent, il faut qu'on fasse comme les Anglais, parce que les Anglais sont devant, il y a un effet d'imitation, mais qui joue comme ça en haut. C'est très différent de ce qui se passe à l'intérieur de la Grande-Bretagne, où là on parlait de ferveur idéologique. C'est très difficile à imaginer cette ferveur des grands. C'est une des premières campagnes qui a réuni des milliers et des milliers de personnes qui se retrouvaient et qui parlaient beaucoup de Dieu. Il y a des discours célèbres. John Bowring, qui était l'un de ses dirigeants avec Richard Cobden de la Ligue, commençait souvent ses discours en disant Jésus-Christ, c'est le libre-échange, le libre-échange, c'est Jésus-Christ. Et après, imaginez ces grandes scènes évangéliques. Donc il y avait ça, ça n'a pas existé en France. On retrouve de la ferveur libre-échangiste dans certaines parties du monde, comme bizarrement au sud des États-Unis. Les producteurs de coton et propriétaires de grandes plantations d'esclaves pouvaient aussi tenir ce discours, c'était très intense. Et dans la seule constitution dans laquelle on ait écrit le libre-échange comme faisant partie des droits inaliénables, c'est la constitution de la Confédération du Sud des États-Unis.
Léo Charles, vous souhaitiez réagir. Et je précise aussi que vous dites dans vos travaux que effectivement ces idées libre-échangistes trouvent un peu de difficulté à infuser en France parce qu'elle se confronte à l'opinion publique qui, on va dire plus spontanément, adhère davantage aux propos protectionnistes.
Oui, et puis au discours, ce qu'on a appelé l'association du défense de travail national en disant, nous, on va vous défendre, etc. Mais pour revenir sur la Grande-Bretagne, ce qui est assez intéressant, c'est que cet exemple britannique nous montre aussi que l'idéologie seule n'est pas suffisante. On a l'influence de Smith, de Ricardo, on a des écrits britanniques, on a l'influence de cette idéologie libre-échangiste qui infuse dans la société britannique, mais il faut pas croire que ça suffise puisque la Ligue favorable à l'abolition de ces lois céréalières s'est organisée. Elle a fait des tea parties, elle a fait des grandes messes, pour le coup, on peut reprendre cette... Et donc, en fait, l'idéologie seule n'est pas responsable de ce changement. Il y a vraiment eu une organisation, un lobbying, c'était les premiers groupes de pression finalement constitués, parce qu'à l'époque, on a commencé à avoir conscience du fait que si on voulait imposer une nouvelle politique économique ou une nouvelle politique commerciale, il faut avoir une structuration, une coalition de groupes sociaux qui vont pousser et prendre le pouvoir finalement aussi au sein des institutions pour mener ce combat vers plus de libre-échange.
Léo Charles, vous le dites, l'idéologie n'est pas suffisante, mais elle reste nécessaire. Et là, c'est intéressant de faire le parallèle avec la structure théorique, intellectuelle aussi, qui vient défendre le protectionnisme. Est-ce qu'il bénéficie des mêmes figures ? On entendait à l'instant dans l'archive sonore l'idée d'évoquer Hamilton, notamment aux États-Unis, sur la base de l'économiste allemand List. Est-ce que c'est un corpus, on va dire, aussi structuré que les arguments des libre-échangistes ?
Eh bien, c'est très intéressant, mais les recherches que j'ai menées, alors peut-être que j'ai pas été encore au bout, c'est encore des recherches en cours, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une pensée protectionniste théorique aux États-Unis, ça c'est certain, avec Henri Carré, notamment Hamilton avant lui, et on l'a dit List. Mais par exemple en France ou en Suisse, c'est les deux pays sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, je ne trouve aucune trace dans les archives parlementaires ou dans les débats de justification théorique basée sur les travaux de List pour défendre le protectionnisme, notamment en France ou en Suisse. Et donc, on a un peu une version, j'allais dire, très pragmatique, en fait, du protectionnisme à la fin du 19e, qui vise à dire, voilà, on veut défendre des intérêts, on veut défendre des spécialisations, le travail national, de façon très pragmatique, répondre, en fait, le protectionnisme est presque une trouvaille pour répondre aux contradictions entraînées par la Grande Dépression, par, justement, la crise endogène du libre-échange, etc. Et donc, non, finalement, il n'y a pas beaucoup de références en Europe, du moins, sur des théories protectionnistes.
David Todd, pour bien comprendre, on a parlé de cette ferveur quasi messianique, on pourrait le dire, de la part de la Grande-Bretagne à ce moment-là. Est-ce qu'il y a véritablement cette idée de, et qui va de pair avec cette métaphore filée de la religion, mais est-ce qu'il y a véritablement cette idée de convertir ? Est-ce qu'en dehors des frontières de la Grande-Bretagne, il s'agit aussi de convaincre autrui, la France entre autres, d'autres pays européens ?
Oui, par exemple, le même John Bowring, le même libre-échangiste dont je vous parlais tout à l'heure, il a parcouru les campagnes françaises dans les années 1830, en se concentrant sur Bordeaux, Lyon, les régions exportatrices, parce qu'il espérait, il pensait quand même à l'intérêt des régions exportatrices de vin, de soieries, hein, les grands produits d'exportation français de l'époque, il espérait faire de convertir. Mais il ne cherchait pas à convertir toute la population, ça aurait servi à rien. Ce qu'il faut convertir, c'est les groupes de décideurs. Donc les idées jouent un rôle, mais ce n'est pas forcément un rôle particulièrement démocratique. Mais juste pour aussi compléter sur Liszt, évidemment, est un bon exemple. Et c'est vrai qu'il y a une asymétrie, hein, on peut dire, sur le plan théorique, entre le libre-échange et la défense du protectionnisme. Mais Liszt lui-même est un auteur intéressant. Alors même si les politiciens ne citent pas toujours ses arguments, c'est quand même un des auteurs qui a connu un succès planétaire. J'ai devant moi la liste des traductions. C'est sorti en allemand, son système national, en 1841. Ça a été traduit en hongrois en 1844, en français en 1851, en anglais en 1856, 1860 et 1885, selon aux États-Unis, Australie, Grande-Bretagne, en roumain en 1887, en suédois en 1888, en japonais en 1889, en russe en 1891. Et je pourrais continuer jusqu'au XXe siècle, en fait, où il y a des traductions coréennes qui sont sorties dans les années 1980. Donc c'est un bon indicateur quand même que les gens cherchent des arguments pour défendre ce qui n'est probablement pas une position fondamentalement théorique.
Je me permets juste de préciser que les traductions que vous venez d'évoquer sont dans leur majeure partie à titre posthume, puisque je rappelle que Friedrich Liszt est mort en 1846, Léo Char.
L'une des raisons pour lesquelles Liszt est très peu mobilisé, notamment en Europe, c'est que dans sa théorie, il n'existe pas de protectionnisme agricole. Lui, il est vraiment focalisé sur le protectionnisme industriel, des industries dans l'enfance, mais il écrit noir sur blanc que le protectionnisme agricole est inutile, finalement. Et or, on se retrouve en Europe, notamment, avec des pays qui sont à dominante agraire. En 1880, 45% de la population française, sur la population active, est employée, entre guillemets, dans l'agriculture. Et ça monte jusqu'à 80%, par exemple, en Espagne, les mêmes années. Donc, il y a peut-être aussi une explication à tirer dans ce sens-là, c'est que finalement, on peut pas trop se baser sur Liszt, puisque dans les pays d'Europe du Sud, notamment, et les pays en France, le protectionnisme est d'abord majoritairement agricole. Il devient ensuite protection des industries dans l'enfance, aux alentours de 1906-1910, mais à la base, on veut protéger l'agriculture. Et donc, Liszt ne répond pas théoriquement à cette nécessité.
Ce qui me permet, Léo Charles, de vous poser une question qui me brûle les lèvres depuis le début, mais puisqu'on a parlé de travail de lobbying, de certes l'importance de l'idéologie, mais pas uniquement. On voit qu'en fait c'est une question de spécialisation des économies des pays concernés. Très concrètement, vous le dites, c'est en 1851 que tout se cristallise, qu'il y a un bloc social qui apparaît pour défendre aussi les intérêts de la nation, en tout cas les intérêts de ce groupe-là. Alors sociologiquement, de qui est-il constitué ce bloc qui défend une certaine approche de la mondialisation telle qu'elle se configure au milieu du 19e siècle?
Alors, en Angleterre, c'est plutôt, en Grande-Bretagne, c'est plutôt un bloc qui s'oppose au conservatisme. Et c'est assez intéressant puisque quand on dit coalition d'intérêts divergents pour former ce qu'on appelle un bloc social dominant, c'est la théorie de Bruno Amable et Stefano Palombarini, on a besoin de faire poids, finalement, pour peser sur les décisions de politique économique. Mais on n'a pas besoin d'avoir les mêmes intérêts. Ils peuvent être divergents. Il faut trouver une coalition. Et notamment en Angleterre, en Grande-Bretagne, on voit que les mouvements féministes et l'Église est en faveur de ce libre-échange. Donc on a quand même des choses assez différentes. En France, c'est assez particulier et c'est peut-être le contre-exemple parfait, mais on n'a pas eu besoin de ce bloc social dominant pour imposer le libre-échange, puisque le système politique très autoritaire a fait qu'il n'y a même pas eu de négociation. Le traité de 1860 qu'on appelle Cobden-Chevalier a été négocié en toute opacité, en secret, et j'allais dire quasiment du jour au lendemain, on a dit voilà, la France est libre-échangiste, alors que la majorité des Français étaient quand même encore favorables au protectionnisme.
Donc relativement imposé, on pourrait le dire ainsi. Alors vous le disiez, il y a ce fameux point d'orgue, la signature en janvier 1860 du fameux traité entre la France et la Grande-Bretagne, dit traité Cobden-Chevalier, du nom de Richard Cobden, député britannique, et de Michel Chevalier, économiste et lui-même partisan du libre-échange et proche conseiller de Napoléon III. On en revient à la couleur, on va dire aussi, de ce régime, et qui partageait donc un objectif commun, comme on peut le constater dans cette lettre de Cobden adressée à Chevalier.
Mon cher ami, vous avez tout à fait raison. Si la paix de l'Europe est préservée, ce sera par nos actions. Le nouveau tarif détachera, je l'espère, le peuple anglais de ses partis, aussi élevé et influent soit-il, qui semble vouloir entraîner l'Angleterre dans une nouvelle croisade contre la France. Nous discutons actuellement de la coutellerie et de la quincaillerie. Nous avons déjà discuté de la fonte et du fer, mais je ne peux pas dire que j'ai entièrement réussi à obtenir ce que je voulais. Nous nous en tenons à 25 francs pour la fonte. Je ne suis absolument pas d'accord, mais j'ai presque fait tout mon possible et Mr. R m'a dit « j'ai vidé mon sac ». En ce qui concerne le fer, je l'ai incité à mettre les petites barres, les fils, les grandes plaques épaisses et la cornière dans la même catégorie que les 7 francs de l'article 17 du traité. Cependant, à mesure que nous nous éloignons des grands articles qui intéressent les grands escrocs, j'espère que nous ferons mieux. Les petits escrocs seront mis à terre en premier et ils se joindront à eux pour faire dégorger les grands un peu plus tard. Revenez à Londres dès que vous le pourrez. Vous me manquez beaucoup. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Richard Cobden.
Une lettre datée du 1er septembre 1860, David Todd, on retrouve là, alors peut-être pas le ton messianique, mais en tout cas une très forte ambition, hein, celle d'assurer la paix en Europe, qui reste au cœur aussi de la démarche. Qui prend l'initiative de ce traité? Et on le disait à l'instant, il a été imposé par décret, ce traité, il a contourné le corps législatif. Comment comprendre qu'il parvienne à s'imposer en France?
Oui, absolument. À l'époque, les gens parlaient même de coup d'État douanier. Qui faisant écho au coup d'État politique de 1851 par lequel Napoléon III avait pris le pouvoir. De même, il doit imposer à son corps législatif, qui d'habitude est plutôt obéissant, le libre-échange. Donc ça suggère un degré d'opposition très très élevé. Rappelez-moi...
De qui a pris l'initiative aussi, c'est ce que...
L'initiative était française, parce que les Anglais étaient déjà partis dans un libre-échange unilatéral. Alors que les Français sont confrontés à ce problème, comment surmonter cette opposition de l'opinion du corps législatif? Et donc on utilise cette technique du traité de commerce pour contourner cette opposition. Et le chevalier, le Michel Chevalier dont on parlait, est un acteur clé de tout ça. Léo Charles mentionnait Alain Minck. Michel Chevalier essayait d'imaginer un Alain Minck du Second Empire. Quelqu'un qui influence beaucoup tout en haut du pouvoir.
Léo Charles, il y a une autre question qui se pose avec ce traité qui est souvent représenté effectivement comme l'apogée de cette ère libérale ou en tout cas de cet accès au libre-échange en France. On pourrait se dire que le fait n'est pas totalement nouveau. Vous le mentionnez d'ailleurs dans vos travaux. Depuis le début des années 1830, il y a un certain nombre de prohibitions qui sont levées. Il y avait déjà eu des réductions de droits sur les fers, les houilles, les laines. Des accords avaient déjà été signés. Alors qu'est-ce que ce traité-là vient changer significativement?
En fait, vous avez raison de rappeler, parce qu'il y a eu un grand débat dans la littérature économique, de savoir si en fait ce traité de 1860, il entame la période libre-échangiste ou si finalement c'est un point culminant. Moi, je montre plutôt dans mes travaux que c'est un point culminant, parce que comme vous l'avez rappelé, en réalité, la France commence à se sortir du système de prohibition, commence à sortir du système mercantiliste. Notamment, on abolit l'échelle mobile sur les céréales en 1853, je crois. J'ai calculé, notamment dans ma thèse, les droits de douane français moyens baissent de 75% entre 1850 et 1871. Et en gros, on passe de 21,5% en 1831-35 à 10% dans les années 56-60. Donc on a déjà une baisse significative de droits de douane. Alors la nouveauté de ce traité, c'est qu'il va créer un réel réseau de libre-échange. Je ne sais pas si c'était pensé comme ça ou si c'était une trouvaille, mais on va inclure dans ce traité ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée. C'est-à-dire que Et d'ailleurs, ces traités avec la clause de la nation la plus favorisée vont déboucher sur 120 signatures de traités avec cette clause entre 1860 et 1870. En gros, pour le dire rapidement, ça veut dire que si la France consent des baisses tarifaires sur un produit en particulier avec l'Angleterre, elle doit aussi consentir aux mêmes baisses sur le même produit pour tous les autres pays avec lesquels elle a un traité de commerce. Et donc ça a réellement dopé finalement le réseau libre-échangiste, notamment en Europe. Et donc ça marque ce point d'orgue et cette installation d'une construction, d'une régulation de la mondialisation basée sur des traités de commerce.
Il y a donc cette première forme de régulation. Il y a aussi un autre phénomène, celui d'une forme de convergence entre Grande-Bretagne et France. David Todd, est-ce que cette convergence prend d'autres formes que les traités ? Et je vous pose la question notamment parce que vous avez déjà mentionné la seconde guerre de l'opium. Est-ce que cette convergence-là, on voit qu'elle s'incarne aussi sur d'autres terrains que strictement réservés à France et Grande-Bretagne?
Oui, cette convergence et cette conversion au moins des élites françaises ou d'une partie des élites françaises au libre-échange va avec l'idée d'une politique non plus de confrontation avec la Grande-Bretagne, mais de collaboration pour que les Français profitent eux aussi de la mondialisation. On peut pas nier que pendant très longtemps, tout le long du XVIIIe siècle, l'historien François Crouzet parlait d'une seconde guerre de 100 ans qui se serait terminée en 1815. Il y a eu confrontation, notamment pour des raisons économiques, commerciales. Au XIXe, plus de guerre entre la France et l'Angleterre. En revanche, de plus en plus de guerres où la France et l'Angleterre collaborent ensemble, et elles collaborent notamment pour ouvrir les marchés au commerce et à la finance de l'Occident.
Et David Todd, on en revient là à la dimension profondément inégalitaire, puisque vous dites vous-même dans votre ouvrage, effectivement, le Second Empire s'allie à la Grande-Bretagne, mais pour imposer, en fait, de fait, des concessions commerciales à la Chine, il y a cette idée que la Chine va se retrouver aussi inondée par les marchandises britanniques. On retrouve là cette idée que tout le monde n'a pas le même accès, finalement, à cette conception de la mondialisation telle qu'elle est en train de se dessiner.
Oui, oui, absolument. Alors, Leo Charles Tudor nous parlait des Anglais qui imposaient des traités inégaux, et parlant des guerres de l'opium. C'est vrai que la première guerre de l'opium, c'est la Grande-Bretagne contre la Chine. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un des moments où Michel Chevalier, il écrit sur cette guerre de l'opium et il dit « on devrait faire comme les Anglais ». C'est un des moments qui participe de sa propre conversion au libre-échange. Ce qui l'intéresse, c'est ça justement, c'est aller conquérir les marchés extérieurs. Et la deuxième guerre de l'opium, la Grande-Bretagne et la France, main dans la main, 1856-1860, vont brûler, alors on ne sait plus trop si c'est les Français ou les Anglais qui ont saccagé le palais d'été à Pékin. Mais oui, il s'agit en fait d'être libre-échangiste à l'époque, c'est être du côté des gagnants et des vainqueurs. Et il vaut mieux être les seconds, même un peu derrière les Britanniques, que d'être du côté des perdants.
On retrouve là l'idée de faire exemple et qui permet aussi d'embrayer tout le système. Léo Charles, vous souhaitez réagir.
Et ce qui est intéressant dans la signature de ce traité de 1860, c'est que du côté des élites françaises, on est persuadé que ça va être un traité bénéfique et que même, à la limite, on en a plus à gagner que l'Angleterre. Notamment parce qu'il y a une très forte spécialisation de l'économie française sur le blé et on est persuadé qu'on va vendre beaucoup de blé à l'Angleterre. On n'a pas vu venir l'émergence qu'on appelle les pays nouveaux qui vont créer notamment la crise de 1873. Mais en fait, il y a vraiment cette conviction presque de se dire que le libre-échange et l'exemple anglais, nous Français, on peut exactement faire la même chose. On va vendre nos blés en Grande-Bretagne. Nos industries exportatrices, il faut savoir que la France est un des premiers pays industrialisés après l'Angleterre. Donc on a une vieille industrie. Dans ces années 1860, on a l'impression qu'on maîtrise finalement les règles du jeu et qu'on peut nous aussi finalement profiter de ce libre-échange.
Léo Charles, très rapidement, parce qu'il y a un petit point paradoxal, si on était à ce point persuadé que ce serait bénéfique, pourquoi il a fallu l'imposer par la force encore une fois?
Parce que le peuple français, je ne sais pas si c'est un bon mot, mais l'opinion française est plutôt protectionniste. C'est-à-dire que si il y a une enquête industrielle ou une enquête une commission d'enquête en 1830 sur les positionnements des chambres de commerce, la très grande majorité des chambres de commerce françaises étaient en faveur de la protection. Donc, il y a quand même cette idée que le le peuple français est plutôt protectionniste et donc il faut imposer la modernité libre-échangiste.
Mais les choses ne durent pas, vous l'avez mentionné Léo Charles, il y a ce fameux crash boursier de 1873, David Todd, les choses étaient plutôt bien parties, pourtant telles qu'on vient de l'exposer. Que se passe-t-il 10 ans après la signature du traité Cobden-Chevalier? Pourquoi on bascule dans un autre système de régulation? Pourquoi on abandonne finalement cet idéal de libre-échange?
Non, c'est vrai que ce n'était pas complètement absurde de penser aux atouts français. Parce que dans la période de 1840 à 1870, les exportations de la France augmentent à peu près 2 fois plus vite que celles de la Grande-Bretagne. Alors, partons d'un niveau plus bas. Mais la France est un des pays qui profite le plus de ce début de mondialisation. Pas seulement les blés, la France a déjà un peu de mal à assurer son autosuffisance, mais on exporte du vin, notamment des vins très chers, en très grande quantité.
C'est l'époque de...
Dans mon ouvrage, je prends l'exemple du champagne, qui était une petite production et qui devient une grande production mondiale. C'est là que la France s'impose dans ses industries de luxe, qui reste d'ailleurs l'un des rares postes aujourd'hui, très excédentaire dans la balance commerciale française. Il y a une spécialisation qui s'affirme à l'échelle mondiale. Donc, ça va plutôt bien jusque dans les années 1870. Alors, il y a un retournement très fort pour toute une sorte de raisons. C'est crise financière. Début de l'arrivée massive des importations céréalières du Nouveau Monde et ça avait déjà commencé avant, de l'Ukraine, qui vont frapper durement les campagnes françaises. Et les campagnes, c'est encore un gros morceau du marché français. Aussi, ça, on le néglige souvent, mais la montée en concurrence de pays comme l'Italie et l'Autriche-Hongrie, qui sont aussi portés sur ces industries légères. En fait, la France est plus complémentaire de la Grande-Bretagne. Elle finit par devenir complémentaire, mais elle va se faire rattraper par d'autres pays qui savent aussi vendre
Suivent aussi l'exemple britannique.
Qui le suivent, mais qui aussi le complètent. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des mines de charbon et produire de la sidérurgie, on va faire des jolis petits articles, des articles de Paris, comme on les appelait. Mais les Italiens, les Autrichiens aussi ont bon goût. Les Français ne sont pas les seuls. Donc ils ont été capables de... et donc là, il y a une crise multiforme, à partir des années 1870, et qui va remettre en cause le libre-échange français.
Alors ça, c'est intéressant. Vous dites remettre en cause le libre-échange français. Léo Charles, à ce moment-là, donc vraiment les contemporains, est-ce qu'on a conscience... Enfin, de quoi prend-on conscience? Est-ce que c'est une conscience que le système de libre-échange tel qu'il a été conçu est défaillant, n'a pas tenu ses promesses? Est-ce qu'on met tout sur le dos de cette fameuse crise financière de 73, est-ce que c'est cette arrivée de la concurrence nouvelle qu'on ne conceptualise pas vraiment, ou est-ce que c'est spécifiquement les traités qui ont été signés dans le sillage du traité Cobden-Chevalier qui sont accusés dans une perspective où on aurait mal négocié les choses? Qu'est-ce qui fait l'objet, on va dire, des remontrances des industriels français notamment?
Alors, en France, on va plutôt se focaliser sur les promesses non tenues du libre-échange. Il y en a plusieurs qui sont identifiées. Mais notamment, voilà, on a parlé de ces exportations et de ces spécialisations qui devaient être soutenues via le libre-échange et qui, au final, n'ont pas été tenues. Les exportations céréalières qui n'ont pas été tenues. Il y a aussi les promesses d'apaisement social. On sait qu'en France, voilà, il y a eu en 1871 des événements assez marquants. Et donc, on a cette promesse aussi d'apaiser les tensions sociales. Finalement, ne sont pas révélé par le libre-échange. Et donc, en fait, je ne sais pas si c'est conscientisé, mais les élites et les groupes sociaux favorables au protectionnisme vont se servir de cette crise pour dire, regardez, c'est en fait une crise du libre-échange. Le libre-échange n'a pas tenu ses promesses et donc il faut changer de système international sur ce plan-là.
Et c'est donc en réaction à ces événements qui est tout un bloc protectionniste qui se restructure, tous les industriels ne vont pas y prendre part de la même façon, on en revient là à des questions de spécialisation également. Et en 1892 est créée l'Association de l'Industrie et de l'Agriculture française qui réunit la Société des Agriculteurs d'une part et l'Association de l'Industrie française de l'autre. Un de ses principaux organisateurs, par ailleurs député des Vosges, va jouer un rôle majeur dans la définition de la nouvelle politique douanière française. C'est Jules Méline qui a donné son nom au tarif, du même nom donc, issu de la loi votée le 17 janvier 1892, le 19 mai 1893, il prononçait ce discours au palais des consuls à Rouen.
L'agriculture avait été sacrifiée dans les traités de 1860, mais elle ne s'en était pas aperçue tout de suite. Les pertes qu'elle éprouva atteignirent le chiffre de près de 2 milliards par an. Il est arrivé ensuite ce qu'on pouvait prévoir. c'est que les industries sacrifiées par les traités ont continué à végéter misérablement. En 1892, quand nous avons opéré la révision générale de nos tarifs, nous n'avons fait qu'achever l'évolution commencée en 1881. Pourquoi l'État règle-t-il les tarifs de douane ? C'est parce qu'il est seul capable de traiter avec l'étranger. Est-ce que vous allez demander à l'initiative privée de régler les rapports de la France avec les pays voisins ? L'État a charge d'âme. Il est notre mandataire à tous, aussi bien le mandataire des ouvriers que celui des patrons. Et c'est lui qui doit défendre nos intérêts vis-à-vis de nos concurrents étrangers. L'état-major du libre-échange est à Paris. Et il se compose de gros bonnets de la finance, des grands importateurs et des spéculateurs qui opèrent sur les produits étrangers. Puissants, riches, audacieux, maîtres du marché financier, ce sont des chefs redoutables. Quant à vous, vous êtes une masse immense répandue sur toute la surface du pays, mais vous êtes dispersés, isolés les uns des autres. Vous avez bien de grandes sociétés d'agriculture et d'industrie, des comices agricoles, des syndicats de toutes sortes, mais la communication entre eux n'existe pas. Il n'y a aucun lien qui les rattache pour leur donner une action commune. La tactique des libre-échangistes consiste à opposer les industries les unes aux autres et à opposer l'agriculture à l'industrie. Heureusement, les producteurs français ont fini par voir clair dans ce jeu dangereux et le rapprochement s'est fait entre eux devant l'imminence du danger. Cette union de l'agriculture et de l'industrie a été notre salut. Sans elle, nous allions à un désastre irréparable. Mais maintenant que le danger est passé, il importe plus que jamais de maintenir l'union de nos forces si nous voulons garder les fruits de notre victoire.
Léo Charles, quel est l'objectif principal de cette loi de 1892 ? On entendait là les raisons de la colère, on va le dire ainsi. Que change-t-elle concrètement pour la France ? Et surtout, question subsidiaire, pourquoi est-ce qu'on se met à parler de tarifs mail-in, là où on parlait de traité Cobden-Chevalier ?
Alors, le 1892, c'est réellement, on va dire, le point de départ du protectionnisme français. Alors, on a une loi en 1881, mais qui est encore, j'allais dire, un entre-deux entre libre-échangiste et protectionniste. Ce qui est intéressant dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est que on voit qu'on a plusieurs groupes sociaux qui sont favorables au protectionnisme en France, notamment les agriculteurs et les industries lourdes. Mais c'est réellement quand les deux associations agricoles et industrielles vont se coaliser malgré des intérêts parfois divergents ou des demandes finalement divergentes sur le degré d'intervention de l'État dans la politique douanière, que là ça va réellement créer un changement dans la politique douanière. Alors pourquoi Jules Méline ? Parce que c'est lui qui va porter la loi à l'Assemblée et qui a été porté par cette association des agriculteurs et des industriels.
Un point très important, David Todd, il faut mentionner que Jules Méline, justement, est certes proche de ces milieux industriels protectionnistes, mais c'est aussi un défenseur de l'expansion coloniale. Du point de vue de ce bloc protectionniste, comment sont perçues les colonies ?
Les deux sont perçus comme le plus souvent très complémentaires. Il s'agit de... C'était Jules Ferry qui disait la politique coloniale, fille de la politique industrielle. Mais je voudrais aussi insister sur il y a toujours plusieurs facteurs en histoire. Il n'y a pas une seule chose qui explique, c'est pas Jules Méline qui explique tout. Et il y a quand même un facteur structurel qui explique ce changement en France, c'est la montée en puissance d'autres, le changement du système international. C'est-à-dire que la puissance britannique s'affaisse, s'affirme l'Allemagne et les États-Unis qui ont tous les deux des politiques très protectionnistes dans le cas américain, assez protectionnistes dans le cas allemand. Et c'est ce changement, en fait, et l'affaiblissement de l'hégémonie britannique qui va changer la donne pour tout le monde. Et qui fait aussi, de même qu'on voulait un peu imiter la Grande-Bretagne, on se dit peut-être qu'on ferait mieux d'imiter l'Allemagne et les États-Unis pour qui ça marche mieux. Et même en Grande-Bretagne, le libre-échange commence à être remis en cause dans cette période. Donc il y a une perte de foi généralisée parce qu'il n'y a plus de puissance assez dominante. Ça peut rappeler un peu la période actuelle, c'est pour ça que j'insiste dessus. On voit finalement la remise en cause du libre-échange, même au cœur du système d'aujourd'hui, ça ressemble à la remise en cause du libre-échange en Grande-Bretagne même en 1900.
David Todd, il y a cet affaiblissement général, il y a cette idée d'une domination qui est de moins en moins dominatrice, et donc cette idée que le système ne tient plus par son centre, en tout cas. Pour autant, on ne parle pas non plus de fin de mondialisation, il faut attendre, on l'entendait avec l'extrait de Suzanne Verrier, il faudra attendre 1914 pour parler d'une véritable rupture. Le système se maintient malgré tout.
Oui, je suis pas complètement d'accord avec Schlesinger. Je pense qu'en fait, si vous voulez, c'est comme on a dit, la mondialisation, c'est un processus. Hein, c'est pas un jour, hop, en 1860, on est mondialisé, le jour d'avant, on l'est pas. De même, la démondialisation est aussi un processus. Et je pense que c'est un processus qui commence dans les années 1880-90. Le tarif Méline est un exemple, fait partie de ce processus. Il s'accélère avec la Première Guerre mondiale. Il va encore s'aggraver avec la crise des années 30. Et puis, c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale qu'on va rentrer dans une nouvelle mondialisation.
Léo Charles, une question très rapide, et notamment parce qu'on a commencé à faire le parallèle avec la situation actuelle. On le comprend, en fait, les tensions autour de cette question entre protectionnisme et libre-échange, elles ont été très intenses. Cette mondialisation, elle s'est faite aussi dans la douleur. Dans quelle mesure est-ce comparable avec ce qui se passe aujourd'hui, notamment en termes de taux d'imposition, on va dire, des importations?
Alors, moi, j'ai beaucoup de mal à parler de guerre commerciale aujourd'hui, parce qu'à l'époque, c'était à coup de 200% de tarifs, etc. Par contre, ce qui est intéressant, on peut dresser un parallèle entre la première mondialisation et aujourd'hui, et imaginer des choses, c'est qu'on a une croissance qui n'est pas tirée par les exportations, mais plutôt une croissance qui est d'abord interne, et ensuite les exportations viennent. Deuxièmement, on voit que la diversité des protectionnistes fait qu'on n'est pas dans un monde autarcique à la fin du 19e. Les échanges commerciaux ont été plus rapides pendant la période protectionniste que pendant la période libre-échangiste. Et donc ça, on peut imaginer des choses pour aujourd'hui.
Merci infiniment pour cette perspective, Léo Charles, et merci à vous, David Todd, d'avoir participé à cette émission.